Alright, 10h40, la belle visite. Paul Lévesque est en studio avec nous autres. Elle nous amène le soleil, Paul Lévesque. Qui est Paul Lévesque? C'est une éducatrice spécialisée. C'est une spécialiste du comportement humain. Je te salue, ma belle Paul.
Hey, tu parles d'un accueil flamboyant et chaleureux.
On est content de
bienvenue
te voir.
Bienvenue à la ferme.
Oui! On a découvert enfin si ça sentait bizarre dans le studio ou pas. Il y a d'autres personnes qu'Audrey qui sont entrées en studio qui ont dit... Ça sent la ferme. Fait que je sais pas
Yann,
qu'est-ce
qui se passe.
Faut
que t'apprennes que j'ai souvent raison.
Oui, là, t'as eu
avec
raison.
Avec le temps, là, tu vas...
Ça sent vraiment la ferme.
Mais une petite odeur de cheval.
On a une drôle de relation, hein, au pied.
Toutes les relations se peuvent. Toutes les relations se peuvent.
Ouais.
Hein? Il y a plusieurs karmas selon l'alchimie. Vous autres, vous n'êtes pas du même âge. Vous n'avez pas vécu les mêmes affaires. Vous avez des expertises différentes. Vous n'êtes pas du même sexe. Je veux dire, il y a plusieurs affaires. Mais vous avez quelque chose, tous les deux, d'extraordinaire.
C'est quoi?
Quand je dis quelque chose de positif sur Yannick, regarde c'est comment les yeux deviennent brillants. Je trouve que vous êtes toutes les deux dans la vérité.
Ah ouais?
Oui, il n'y a pas de faux-fouillant. Il n'y a pas de qu'est-ce qu'ils pensent d'eux. Il n'y a pas de...
Non, okay, Audrey, quand ça pue, ça pue.
Non, mais je veux dire, vous êtes dans la vérité de dire les vraies affaires. C'est puis beau, souvent, l'humour vous enveloppe là-dedans. Là. Tu sais, tu prends pas les mouches. Il y a beaucoup d'humour. Puis,
ouais.
Puis vous êtes dans la vérité. Tu sais, c'est pas « va vérifier avec le troisième, la troisième personne qui est venue avant moi. Est-ce que vous trouvez que Yannick a changé? » Est-ce que... Tu sais, je trouve qu'il y a des lignes directes.
Mais non, mais on s'aime.
C'est pas obligé de se respecter. Oui,
mais là, puis essaie de créer une distance entre nous.
Oui, on s'apprécie, mais je pense que j'ai...
Tu vois, il a choisi un autre qualificatif.
Parce que je sais quel est le sujet. Là. À ce temps que j'ai ma feuille, je sais c'est quoi le sujet.
Oui, tu vois, on fait une entrebouche. Là.
J'ai réfléchi à ça hier quand je regardais les sujets que tu nous avais proposés pour aujourd'hui. Puis là, on a choisi les relations de travail et les conflits qui risquent d'éclater, du monde avec qui je passe plein de temps et que je n'ai pas choisi.
Ah, c'était une mise en scène, ton affaire, je comprends.
Et là, je vérifiais dans, tu sais, dans ma vie, dans mes relations de travail, si j'ai déjà détesté quelqu'un. Puis la réponse, c'est non. Par contre, j'ai un maudit problème, moi, c'est qu'à partir du moment où je décroche de quelqu'un, cette personne-là tombe dans l'ignorance.
Hey, oui,
l'ignorance
ça, je l'ai vu.
La plus complète. Si je peux laisser 4-5 chances, là, tout dépendant de ce qui est dit, mais s'il y a une chose qui est dite, puis ça dépasse comme l'entendement dans mes yeux, cette personne-là tombe carrément dans l'ignorance. Moi, être capable de travailler avec, moi, être capable de répondre « Salut, ça va? » blablabla. Mais une fois que la porte est fermée, puis il n'est plus là, il n'existe plus. Puis si je le croise ailleurs, pas moi qui vais aller le voir, c'est certain.
J'ai été témoin de ça, oui.
Ouais.
Pas par rapport à moi, là.
Ouais, j'ai déjà refusé au centre Vidéotron, là. Puis j'ai juste eu un collègue depuis 2006 que j'ai banni de ma vie, là. Il est arrivé pour me tendre la main, puis j'ai gardé mes deux mains dans les poches.
Oh, ça fait mal, ça.
Oui.
C'est fou, hein? Mais depuis le 2006 que je fais de la radio, j'ai eu un collègue que j'ai totalement ignoré de ma vie.
Moi, je travaille là-dessus parce que tout me paraît d'en face. Il y a personne, par exemple, je suis chanceuse là-dessus, il y a personne que je déteste dans ma vie. Il y a des gens que j'essaie de comprendre, il y a des, tu sais, mais que je déteste, ce mot-là est fort, là. Il y a personne avec qui je m'entends vraiment pas dans la vie. Là. Je suis plus celle qui va essayer de régler des affaires constamment en espérant qu'un jour ça se stabilise.
Mais détester quelqu'un, Paul, haïr quelqu'un, il me semble que ça sert à rien.
Oui, puis c'est trop, là.
Ignorer, ça sert pas à rien non plus. Là. Ça sert à rien non plus, je l'imagine. Mais moi, c'est la meilleure des techniques pour me conserver correct là, quand je travaille avec cette personne-là. Là, je travaille plus avec cette personne-là, fait que c'est plus un problème, mais... Tu sais, détester quelqu'un, haïr quelqu'un, ça revient à boire du poison dans l'espoir que l'autre personne meure. Fait que c'est toi qui bois le poison, mais ce que tu veux, c'est que l'autre meure. Ça n'a pas rapport.
Mais tu sais, c'est un spectre très large. Haïr quelqu'un, c'est à l'autre bout du spectre. Mais dans le quotidien, tu peux vivre des relations de travail parce que tu sais qu'il y a trois sortes de relations. Il y a relations d'amour, d'amitié et de travail. Dans la relation d'amour, le spectre est large aussi. Je veux dire... Moi, je t'aime, Yannick, là, mais je suis pas en amour avec toi. C'est ça, la différence. Tu sais, quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime, on sent comme un malaise. Mais tu sais, j'aime mes enfants, j'aime Tu sais, j'aime Audrey, j'aime... Mais je suis pas en amour. Ouais.
Plus on vieillit, l'amour prend un autre sens aussi. On est capable de prendre les doses d'amour de nos chums de gars, de nos chums de filles.
Ça évolue au niveau de la société
Tandis que quand on était jeune, tu sais, notre chum de gars qui disait « Hey, je t'aime, buddy », c'était comme un peu bizarre.
Ouais.
Je pense qu'on n'osait même pas le dire.
Prends une distance. Oui. On a pris un verre, là, puis là, tu me dis « Je t'aime, buddy », prends une distance. Là, c'est... Mais plus tu vieillis, plus tu comprends ce qu'il veut dire.
Ben oui.
On s'apprécie.
Ben oui.
Ben, parce que, tu sais, en anglais, il y a « like » et il y a « love » qui fait la distinction.
Nous, on n'a pas cette
distinction-là. Moi, la distinction que je fais, c'est être en amour et aimer. Tu comprends?
Moi, j'aime du monde en tabarnouche, je fais chier dans le trou.
Ben non, mais... Ben pas, pourquoi pas? Pourquoi? Y a-tu un ratio?
Je pense pas.
Il y en a qui ont besoin d'un plus grand territoire, d'autres plus petits. Le deuxième, c'est l'amitié. Et le troisième, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, c'est la relation d'affaires. C'est-à-dire les gens qu'on côtoie quotidiennement, qui peuvent devenir des gens en amitié, qui peuvent devenir des gens qu'on aime, mais a priori, c'est des gens que nous n'avons pas choisis et qui nous ont été imposés au départ. La relation peut évoluer. Et quand tu parles de relation de travail ou de gens avec qui tu n'as pas choisi, il y a en fait 5 types de conflits qui sont comme des allumettes, qui risquent d'allumer le feu. Et quand moi je viens ici, ce que je veux, ben, c'est vous voir d'abord, là. Rendu où je suis rendu dans ma vie, là. Les demandes sont là, alors je choisis ceux avec qui je veux être, c'est ça la beauté de la chose. On peut-tu comprendre? Moi, dans la vie, je pense que lorsqu'on comprend quelque chose, on le maîtrise beaucoup mieux. On est moins dans le jugement, on est moins dans la haine, on est moins dans la colère. Peut-être pour ça qu'on est moins dans la haine en vieillissant, parce qu'on comprend plus ou on cherche à comprendre. Derrière chaque comportement, il y a une explication. Et quand on regarde les 5 sources de conflits au travail, ben on peut peut-être essayer justement de dire « OK, ah, c'est pas qu'il m'en veut personnellement, c'est qu'il y a une alchimie. » C'est-à-dire que pour qu'il y ait une mauvaise relation, ça prend 2 personnes. Il y a des personnes qui sont naturellement plus... Il y a des coups de cœur. Avez-vous remarqué qu'il y a des coups de cœur?
Ah ben oui.
Il y a des coups de cœur en relation de travail, il y a des coups de cœur en émission.
Il y a des fits plus naturels.
Il y a des fits naturels. Il y a des gens, tu as l'impression... Moi, des fois, je me dis, on dirait que je les connais depuis toujours.
Ouais. Sans raison, nos neurones miroirs. Y a-t-il quelque chose de biologique qui peut expliquer ça? Pourquoi avec certaines personnes... avec qui tu travailles, il y a des fits naturels, puis tu es capable de comprendre ce que cette personne-là vit sans nécessairement y parler, versus des gens où tu es juste pas capable de t'entendre. Si tu dis, hey, cette personne-là, c'est vraiment pas mon type de personne, ça peut être une super bonne personne, mais c'est juste que c'est pas mon type de personne.
Ouais, moi, ce que je remarque, puis ça fait partie d'une des premiers éléments qu'on regarde quand on parle des conflits, c'est les valeurs. Quand les gens ont des valeurs qui nous ressemblent, elles ont nécessairement un discours orienté par ces valeurs-là. Elles ont des choix de vie orientés par tu sais, l'idée dans la vie, c'est d'être avec des gens sur qui on a une empathie naturelle. Et l'empathie naturelle est provoquée souvent par des gens qui ont des valeurs similaires. Tu sais, si, par exemple, moi, j'ai une valeur importante, c'est la famille. Mettons, OK? Puis c'est vrai, là. C'est dans mes top 3, là, tu sais, c'est la famille. Donc, mes choix vont être orientés vers ça. Mon discours, quand je parle de mes enfants, quand je parle de mon conjoint, quand je parle des gens, mon discours est orienté vers ça. Donc, quand je suis avec des gens qui sont dans le même réseautage, il peut y avoir une compatibilité plus naturelle. Si, par exemple, dans mes valeurs, il y a le partage. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas de dîner, moi, je vais lui donner la moitié de ma sandwich. C'est vrai, là, c'est comme ça, tu sais. Donc, si je suis à côté de quelqu'un qui sa valeur, c'est un pois chiche. C'est quelqu'un qui dit, t'avais juste à te débrouiller, organise-toi tout seul. Moi, ma valeur, c'est, tu sais, être capable de se responsabiliser par soi-même puis de pas... Ben, mon comportement risque d'irriter. Un midi que j'ai pas de sandwich, puis petit pit, il en mange 3 à côté de moi, je vais dire, il est pas obligé de me la donner. Mais si ça se multiplie dans le temps, que je remarque par ses dires, par ses propos, par ses façons de faire, un grand écart, ben je vais être... Parce que les valeurs, vous savez, c'est fondamental. Moi, je peux changer bien des choses, mais les valeurs, viens pas me les broussailler. Mes valeurs, là, ça, là, jusqu'à la mort, je vais les défendre. Pour moi, la fidélité, c'est important. Moi, à Paul, ça veut pas dire que les autres sont obligés, mais c'est sûr que je serais pas attirée par quelqu'un qui est polyamoureux, mettons. Parce que c'est une question de valeur.
Ouais, moi, au printemps, je les trouve toutes belles.
Alors, on s'attend à ce que tu dises quelque chose de gentil sur moi et Audrey.
Ben oui!
C'est le printemps!
Ben oui, mais là, fais ton petit mot qui sort, puis revalorise les deux madames qui sont ici.
Non, je comprends ce que tu dis, puis je sais pas si... ben, je pense qu'Audrey est un peu comme ça aussi, puis je me retrouve des fois en Audrey aussi. Moi, j'ai une tendance à me dire, mais pourquoi cette personne-là est comme ça? Pourquoi elle réagit de telle ou telle façon? Y a-t-il un esprit machiavélique derrière cette personne-là, tu sais, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui calcule dans la vie. Je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. Je ne suis pas quelqu'un qui planifie des choses dans une semaine, deux semaines, trois semaines, mais il y a des gens qui nous entourent qui sont très stratégiques, qui savent exactement ce qu'ils veulent, où ils s'en vont, puis pourquoi ils le font. Ils vont être portés à aller vers des individus qui vont leur apporter constamment quelque chose. Dans les entreprises, on peut voir toujours ce même type d'individu-là, que ce soit un homme ou une femme, se rapprocher constamment, peu importe la job qu'ils font, se rapprocher constamment des patrons. Parce qu'ils ont des objectifs. Mm-hmm. Puis les objectifs, ils ne veulent pas les atteindre par leur performance au day-to-day. Ils veulent les atteindre par une certaine amitié avec les patrons. « Ah, je m'entends bien avec les patrons. Je vais souper avec les patrons. Je fais des sorties extérieures avec les patrons. Je peux m'occuper... On peut faire en sorte que nos enfants puis les enfants du patron jouent ensemble pour créer... Tu sais, moi, ça, j'essaie de comprendre ces gens-là, mais ça ne sera jamais mes amis.
Bien, on peut... On peut les voir comme des lèche-culs, tu sais. Des opportunistes.
Je veux pas dire ça, c'est parce que...
Mais on peut les voir comme ça, oui. Alors ça va mériter. Mais ça se peut que ça soit ça aussi.
Au même titre que dans des cours de vente que j'ai fait à l'époque, on disait, quand vous rentrez dans le bureau de quelqu'un, regardez les cadres. Ça en dit beaucoup sur les gens. Si le gars, des cadres où on le voit en photo, puis il est au golf, tu peux y parler du golf. S'il y a des enfants, tu peux y parler de ses enfants.
Ses intérêts.
Il est constamment sur ses cadres, il est constamment en voyage, tu peux y parler de ses voyages. Essayez de trouver des champs d'intérêt en commun que vous avez. Ça s'appelle de la manipulation.
Ben c'est ça j'allais dire.
Mais
parce que
moi, je suis pas capable.
Moi, dans ma tête, il y a une question de feeling, là. On va passer 10 minutes ensemble, on va le savoir assez rapidement. Là
tu parles d'instinct, oui. de ce que je ressens.
Mais moi, mon
quand
instinct,
je suis
c'est
avec
mon
cette
seul
personne-là.
Compas, là.
OK.
J'ai puis écoute, à la vie à la mort, dans mesure où il y a du bon, il y a du bon, il y a du bon, il y a du mauvais. Là, mais je trouve ça important. Puis essayer de comprendre, par exemple, l'autre, ça aussi, je trouve ça important. Parce que des fois, il y a des contextes où tu t'entendras peut-être. Une de mes meilleures chums ici, là, que j'ai connue par le travail ici. Au début, les premiers mois, là, c'était pas un fit parfait. Puis, je veux dire, assez rapidement, au fil de conversation, tu te rends compte que, tabarnouche, on est donc bien pareil, puis on se ressemble donc bien sur telle affaire. Puis, 6 ans plus tard, je veux dire, les deux doigts de la main, là. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a des relations qui peuvent se travailler.
Évoluer,
effectivement. Mm-hmm. Des fois, t'es juste pas en même place non plus dans la vie, puis c'est bien correct, là. Mais
ça peut évoluer négativement. Ça aussi, peut être quelqu'un avec qui t'as pensé que... puis ça l'avait évolué négativement, tu es déçu.
Mais c'est juste une question de personnalité? Les conflits au travail, les relations
écoute,
de travail?
Quand on sort les grandes lignes, les valeurs sont un des éléments qu'on va mettre en relief, ce que je vous disais tantôt. Il y a les éléments qu'on appelle les conflits tangibles, c'est-à-dire des choses que tu as de la difficulté à supporter chez l'autre. Le manque de ponctualité, par exemple. Le fait qu'ils sont... dans le fouillis, pas propre, le fait qu'ils vont voler ton lunch dans le frigidaire. Non, mais des choses tangibles. C'est-à-dire que, un, les valeurs, deux, des choses tangibles. C'est-à-dire qu'il fait des choses quotidiennes qui te tapent royalement sur les nerfs. L'autre élément, c'est les conflits interpersonnels. Donc, c'est vraiment une incompatibilité personnelle au niveau de sa personnalité. Je pourrais te donner un exemple, moi, personnel. Là. Les gens prétentieux.
T'es incapable.
Ben, tu sais bien que je vais m'adapter, là. Mais...
c'est pas naturel.
Il me tape ses nerfs. Ouais. Tu sais, moi, dans ma tête, là, que t'aies une cravate ou que tu aies un vieux gilet troué parce que t'es un itinérant, on juge pas les gens. Tu comprends? Les prétentieux les jugent. Je suis bien meilleur que les autres. En tout cas, on va tout aux toilettes, tout le monde, puis... Non, mais moi, c'est ça, personnellement. Donc, ça peut être ça. L'autre, c'est conflit de territoire. C'est-à-dire... quelqu'un qui empiète sur tes limites, quelqu'un qui va être envahissant, quelqu'un qui ne se mêle pas de ses affaires, quelqu'un qui veut te contrôler, qui ne respecte pas les frontières que tu as mis. Ça, ça, des gens envahissants, ça peut être, on appelle ça des conflits de territoire. Puis le dernier, c'est les conflits perpétuels, c'est-à-dire la récurrence. Quand tu as un conflit avec quelqu'un et tu peux le régler, ça l'évolue. Mais il y a des choses qui sont des problèmes insolubles, c'est-à-dire des conflits perpétuels qui sont souvent provoqués par une mauvaise communication, par le fait qu'il y a une adaptation rigide. On sait que les gens qui ont une adaptation souple sont manifestement des gens tout territoire. C'est pas qu'ils sont manipulateurs, c'est juste qu'ils sont capables de s'adapter. Donc, s'ils parlent à un enfant, puis une des façons de remarquer les gens qui ont une adaptation souple, vous remarquerez comment ils se mobilisent physiquement face à une autre personne. Donc, quand tu parles à un enfant, il va avoir la tendance à se baisser, se mettre à leur niveau.
Oui. Mm-hmm.
Tu comprends? Donc, les gens qui ont une adaptation souple, c'est souvent les gens qui vont être plus conciliants, qui vont faire plus de compromis, qui vont moins juger, qui vont être plus dans... Il y a quelque chose qui explique ça. Qui vont le prendre moins perso. Parce que souvent, les gens qui sont soupe au lait, tu sais, qui ont la tolérance courte, mm-hmm. ou qui ont une estime faible, vont avoir l'impression que tout est dirigé vers eux.
La loyauté, c'est-tu important entre collègues? Quelqu'un de loyal.
Si c'est ta valeur. Bien, moi, je pense que c'est une valeur extrêmement importante, la loyauté. Ça veut dire que le comparable que je ferais, c'est comme l'amour inconditionnel chez les enfants et les parents. La loyauté, c'est de dire, je t'aime pas pour ce que tu me donnes, je t'aime pour ce que t'es.
Mm.
Puis parce que t'es un humain, ça se peut que tu l'aies pas tout le temps. J'ai pas à te mettre de côté, une des choses, moi, que je trouve très difficile dans la communication, c'est les gens qui vont parler dans le dos. Pour moi, c'est des gens déloyaux. S'il y a quelque chose qui ne va pas, viens me le dire à moi. Mm-hmm. Le placotage, la médisance, ça, pour moi, c'est la contrepartie d'être non loyal.
Ouais, c'est une forme de trahison. Là.
C'est une trahison.
Ah, puis
moi, ça me tue.
Dans une entreprise, c'est extrêmement toxique. Là, des gens qui me meurent constamment.
Oui.
C'est drôle parce que je fais un lien avec quelque chose qui n'aurait pas rapport. Je parlais avec un conspirationniste la semaine passée. Puis il me revenait avec les attentats du 11 septembre parce que j'ai regardé un documentaire qui est disponible sur Netflix là, concernant la traque d'Oussama Ben Laden. Puis jasais de ça avec lui, comme quoi c'était bon à écouter. Puis il disait, ouais, là, c'est sûr que c'est un inside job. Donc, une job de l'intérieur du gouvernement américain qui aurait comploté pour détruire eux-mêmes les fameuses tours du World Trade Center. Puis là, je l'ai mis en contexte. Je dis, imagine si... Bon, on va dire que je parlais à Audrey, tu sais. Imagine Audrey, on est à Boulevard, là, puis je te dis que j'ai une MTS.
Okay? Ouais.
J'ai pogné, ça me prend une petite crème de 3 jours. Là. J'ai rencontré une petite cacotte. Il y a de ça quelques jours. Il y a des petits boutons qui m'ont poussé sur le moineau.
Oui.
Mais en quelques minutes, la nouvelle va se répandre à l'intérieur de l'entreprise.
Ça dépend à qui tu le dis.
Les gens placotent.
Mais okay? si Audrey ne le dit pas...
Puis le parallèle que je faisais...
Oui, c'est ça, parce que là, tu as pris moi comme exemple.
Ouais,
mais mettons qu'Audrey ne le dit pas, ça va pas s'étendre.
Je passe mes messages.
Aye, mais
le parallèle que je faisais avec le 11 septembre, c'est... Imagine-toi, si c'était un job interne du gouvernement, là, ça aurait impliqué des milliers de personnes.
Mm.
Puis il n'y en a pas un qui a m'aimerait ça à sa femme, genre. Pas un qui a m'aimerait ça à quelqu'un qui est une vraie police, mettons. Fait que la loyauté, pour moi, elle est hyper importante. C'est une des plus belles valeurs que je peux avoir quand je rentre en contact avec quelqu'un. Je m'aperçois que cette personne-là n'est pas loyale, c'est-à-dire qu'elle trahit quelqu'un avec qui elle vient de la serrer dans ses bras. Mm. Jamais que je te ferai confiance.
C'est qu'elle va le faire à toi.
Ben exact. Parce quand que quelqu'un qui parle des autres constamment, quand t'es pas là, elle parle de toi.
Mm. Moi, c'est sûr que ce principe-là, je l'ai remarqué il y a très longtemps. On faisait des soupers. Tu sais, j'avais plusieurs gangs des soupers qu'on appelait de sacoche à l'époque. Là. On était 4 filles, 3, 4, 5 filles. Ben, c'est sûr que la personne qui se levait la première, puis qui quittait, puis que une de la gang se mettait à parler contre elle, C'est sûr que la deuxième qui se levait, elle faisait la même chose.
Tout le temps.
Alors moi, je me rappelle, puis ça a mis fin, n'est-ce pas? Je me suis levée, puis j'ai dit, dis-moi donc tout de suite ce que tu vas me dire dans le dos, mais que je sois partie.
Et t'es bête!
Mon Dieu, wow, t'es bête! Ah non, moi j'admire.
Mais c'est des gens qui empoisonnent la vie des collègues. Là.
Ça n'a pas de...
Ça empoisonne
moi, ça,
une entreprise.
Pour moi, ça, c'est la vraie toxicité. Mm. Parce que tu détruis la personne et elle n'a pas d'âme pour... Tu détruis la personne, puis elle n'est même pas là pour... se défendre, mais tu crées un doute raisonnable sur les autres qui entendent ce message-là, même si c'est pas vrai. Donc, ce que tu fais, c'est que tu crées une fausse réputation. Et c'est là que dans les milieux de travail, on fait des gros dommages. À un moment donné, on ne veut plus personne parler à cette... Puis on ne sait même pas pourquoi. Bien, parce qu'il y a eu du galvaudage, du ravaudage, bon, etc. Fait que pour moi, une des façons de garder un milieu de travail sain, c'est de ne pas, un, embarquer dans ces systèmes-là. Et moi, quand quelqu'un essaye de m'embarquer dans un système, tu sais, hey, lui, telle personne, premièrement, Québec, c'est un petit village. Dès que tu es une figure un peu publique, là, tu finis toujours par faire des ramifications. Moi, je dis toujours, je n'embarque pas là-dedans, va voir la personne
concernée. Ouais, ça ne me regarde pas. Moi, ça m'est déjà arrivé d'ouvrir la porte aussi à des gens, là, parce que j'avais entendu du placotage. Fait que je t'ouvre la porte à me dire, as-tu quelque chose à me dire?
Oui.
La réponse en dit long, tu sais. Je trouve que c'est tellement important. Là. Puis des fois, je me suis souvent fait reprocher que je manquais de tact. Puis en passant à zéro, toute blanche.
Moi, tu l'as fait devant moi, là.
Manquer de tact?
Non, oui, ben pas manquer de tact, là, parce que j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait.
Des fois, il y a
fait,
de l'accumulation
mais
aussi.
Mais je me suis dit...
c'est pas toujours beau.
Je me suis dit, cette femme-là, c'est une femme extrêmement loyale. Puis je peux pas nécessairement te le rappeler verbalement exactement c'est quoi tu avais fait, mais je vais essayer de faire une image. Elle est intervenue... Il y a quelqu'un qu'elle aime beaucoup, qui disait quelque chose qui pouvait faire du mal à quelqu'un d'autre, à court, moyen et long terme.
Oui.
Puis elle est clairement allée voir cette personne-là en lui disant, écoute, tu manques de classe présentement. Je tiens à te le dire. Ce que tu dis là, ça va certainement arriver à ses oreilles à elle. Puis ça va y faire du mal. Puis moi, ben, ça va me faire de la peine que cette personne-là ait du mal à cause de ce que tu dis là. Elle l'a fait devant moi. Ça date de quelques semaines.
Fais-tu le lien? Je ne fais pas particulièrement le lien, mais écoute, je le prends par exemple, okay. Ça te fait du bien au cœur.
Elle l'a fait devant moi. J'ai pas dit un mot. Ça fait une couple de semaines. Puis là, je te le dis à toi parce que ça me fait penser à ça. Mais je me suis dit, cette femme-là, puis la personne qu'elle défendait, c'était pas une de ses meilleures amies. Là, puis c'était pas un de ses meilleurs amis. Là. C'était une personne qui était dans l'entreprise.
C'est bien beau ce que tu dis.
Puis j'ai
ben oui, puis c'est toi en plus.
Voyons donc.
Ce qui est encore plus beau, c'est que je te l'ai pas dit.
C'est sûr, ouais,
mais je l'ai pensé. Puis je suis rentré dans le studio et j'ai fait « Wow! Oui. » Quelle belle personne.
Mais je pense qu'il y a personne qui est tout blanc. Je pense qu'il y a un moment dans notre vie, que ce soit en entreprise ou dans la vie personnelle, où tu vas flopper. Tu vas parler où il faut pas que tu parles. Tu vas te mettre les pieds dans les plats.
Mais c'est ça, la vie.
Oui, exact. Puis je pense que c'est dans ta réaction que ça en dit beaucoup. T'es-tu capable, après ça, d'assumer, d'aller voir les gens concernés? T'es-tu capable de te mettre de l'avant, de t'expliquer, de t'excuser, de peu importe ce qui doit venir avec ce genre de situation-là? Je trouve qu'il manque de ça dans nos relations.
Bien, je pense que ça... Si on prend le point de départ de ce que tu dis, Audrey, et qui est très intéressant, c'est l'humilité. Avons-nous l'humilité de se regarder et d'arrêter de mettre sur le dos des autres ce qui arrive? L'humilité de prendre sa part, pas que tu te sens coupable, mais tu te sens responsable. Et malheureusement, tu rencontres des gens qui c'est jamais de leur faute. Puis on cherche pas de coupable, on cherche un responsable.
Ça tire du jus, ça, là. Oh!
Bien, c'est parce que la relation est difficilement ajustable si l'autre ne voit pas sa part de responsabilité.
Est-ce que... Souvent, il y a des règlements de conflits à l'intérieur d'une entreprise, là, entre deux collègues qui discutent de ce qui s'est passé. Puis, regarde, finalement, toi, tu l'as perçu de cette façon-là. Moi, je l'ai perçu de cette façon-là. J'ai peut-être parlé un peu trop fort. J'aurais pas dû, patati et patata. Une fois que le conflit est réglé, pourquoi il y a des gens qui continuent de leur côté à parler de ce qui s'est passé, mais aux autres qui étaient autour?
Est-ce que tu considères que le conflit est réglé si cette personne-là fait ça?
Pas du tout. Bien, je pense plus que c'est du control damage de l'image de cette personne-là qui veut tellement pas être entachée qu'elle veut essayer de voir ce que les autres peuvent avoir pensé de ce dit conflit-là. Je ne sais pas si c'est méchant, mais je me dis, une fois que c'est réglé, ça devrait être réglé.
Bien, la première question qu'on se pose, c'est-tu vraiment réglé? Deux, est-ce que c'est le genre victimite qui vont utiliser ces événements-là pour attirer de la sympathie, du capital sympathie? Il y a des gens qui n'ont pas envie que la situation se règle tant que ça parce que pendant qu'il était ou elle était en litige, elle recevait de l'attention.
Ouais.
Il y a des gens qui vont carburer à l'attention. Et puis, des fois, on a... Ça s'est réglé en surface, mais...
Il y a encore des petites bébites.
Émotivement, ça ne s'est pas réglé.
Mais ça, je trouve tellement que ça se dit. Puis à la limite, c'est confrontant. Mais hey, moi, là, quelqu'un vient me voir et me dit, honnêtement, là, quand tu as dit telle chose ou tu as fait telle chose, ça m'a vraiment... Je sais pas, ça a affecté ma confiance ou ça m'a détruite de telle façon de « Hey, tabarnouche, les genoux me flancheraient. » Il me semble que c'est la meilleure façon de faire réaliser à quelqu'un ce qu'il fait.
Mais t'es empathique. Tu sais que si t'es pas empathique, le discours de l'autre est beaucoup moins
porteur. T'importe pas.
Ben, tu sais, être empathique, ça veut dire être capable de se mettre à la place de l'autre. Donc, quand l'autre te parle, puis t'es capable de se mettre à sa place, on va évoluer ensemble. Mais si je suis pas empathique...
Puis quand, mettons, dans une entreprise, t'as ce genre de relation-là, parce que ça doit être dans toutes les entreprises, là, tu l'as dit, on se ramasse avec des gens...
Plus entreprise de femmes.
Oh oui! Ah! Oh oui!
Non, là, toi, là, Yannick Marceau...
Ah, non,
mais je peux pas dire de quoi d'intelligent.
Les placoteux.
Les gars, ils ont d'autres choses.
Les ratoureuses.
Les gars, effectivement,
les gars, ils ont d'autres choses. C'est qu'ils gardent tout pour eux autres comme une petite huître, puis à un moment donné, ils explosent.
Ouais.
Mais... chez les filles, une des difficultés, puis là, je m'assume en disant qu'il y a encore des gars puis des filles, OK? Parce qu'on pense qu'il n'y a plus de gars puis de filles, il n'y a qu'un mélange des deux, mais il y a encore des gars puis des filles. Puis les filles, une des problématiques, puis je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est qu'elles ne sont pas porteurs de messages clairs. Pas toutes, mais il y a une tendance à... Je te l'ai déjà dit, qu'est-ce que ça? C'est qu'on déduit que par notre... façon de s'exprimer, l'autre a clairement compris.
Ouais.
Tu sais, quand je dis... ben, puis est-ce que je vous ai déjà donné l'exemple de la poubelle?
Hey, ça me dit quelque chose, ça.
Ça, je vous l'ai déjà donné.
Vas-y donc.
Ben, que madame trouve que la poubelle sent pas bon. Au lieu de dire à monsieur, pourrais-tu sortir les poubelles?
Elle va dire la poubelle sent pas bon.
Sent pas
ah,
bon.
C'est tellement vrai, c'est tellement vrai.
Puis là, monsieur, il comprend pas. Puis là, la guerre pogne parce qu'elle a l'impression que monsieur, il...
Je viens de te dire que ça sentait mauvais. Tu penses que je t'ai dit ça pourquoi?
Ouais.
Oh, mon Dieu. Hey, ça m'arrive.
Bon, ben, c'est... Quand je parle de relations féminines difficiles, c'est ça.
Ouais.
Tu comprends?
Je comprends.
Quand je parle de relations... Il y a des exceptions à chaque règle. Ne soyez pas offusqués de dire « Moi, Paul, ça ne correspond pas à moi. » Autant d'humains, autant de réactions. Mais il y a des tendances.
Mais des fois, tu cherches une délicatesse, j'ai l'impression. Tu sais, tu veux comme pas attaquer quelqu'un de front, fait que tu essaies de faire comprendre le message parmi
façons. Ça en fait compliqué.
Ayant travaillé dans des milieux de filles et des milieux de gars, là, très souvent, ce que les filles nous disaient, Paul, c'est « J'aime mieux travailler avec des gars parce que c'est bien moins compliqué, ça se tape sa gueule, puis après ça, c'est fini. »
Moi, j'ai travaillé avec des gros groupes de délinquance, là. Filles, juste des gars. Puis je trouve ça plus facile avec les gars, même s'ils pouvaient le poing sur la table qu'on lise de tabarnak de ce tiboire.
Mais quand c'est dit, passe à autre chose.
Mais je le sais.
Oui.
Tandis que la fille m'a dit que j'avais un beau rouge à lèvres, m'a dit que j'avais un beau chemisier, mais dans le dos, ils sont en train de préparer un plan cul, tu sais.
Non, mais
Mais les gars ont des choses à travailler. Ce que je veux dire, c'est parce que je crois à la qualité d'être des gars et des filles dans un milieu de travail. Je crois que nos expertises naturelles, qui sont différentes, apportent quelque chose de « wow ». Tu sais, s'il y avait plus de gars dans les écoles primaires, par exemple, si... Non, mais tu sais, la capacité...
Oui.
Prends juste quand on jase ici, là. Bon, Yannick, c'est un spécimen, mais il amène quand même quelque chose qui vient contrebalancer des fois notre discours et vice-versa,
oui,
là, tu sais.
De temps en temps, là.
Je trouve ça riche.
Oui.
Je trouve ça riche. Mais dans mes recommandations, est-ce que vous souhaitez que je fasse des recommandations?
Oui. Ça sert à ça, ma belle Paul.
Oui, bon, oui.
Interpersonnel, tu veux dire, entre deux personnes qui ne s'entendent pas bien au travail?
Oui, dans le thème d'aujourd'hui.
Parfait.
Oui.
Parce que j'ai des questions par rapport au patron après.
OK, ouais, oh on va... Ben, ça peut... Oui, là, on change de step. Okay.
J'espère que Steven écoute.
C'est votre patron.
Oui, c'est un des patrons. Okay.
C'est pas grave, je l'ai rencontré au cinéma la semaine passée. J'allais voir Mission Impossible. Il était tout seul, puis allait voir Lilo et Stitch.
Il l'écœure depuis ce temps-là.
Ouais, c'est ça. Ben, il n'y a pas le choix, là.
C'est tellement bon, Lilo et Stitch.
Qui aurait passé ça sous silence?
Tout le monde, Yann.
Un homme de 40 ans qui va voir seul Lilo et Stitch.
Franchement.
Je vois pas, comme je ne connais pas, c'est Steven.
C'est Steven, je vais le défendre. J'ai été avec des enfants, qui dit.
Oui, on les a jamais vus.
Ouais, il était peut-être dans 8e rangée d'en avant.
Peut-être aussi.
On il a pas dit très sien.
Oui, tant que c'est de l'humour.
Donc.
Oui. Tant que c'est de l'humour.
Allons-y avec les
Donc,
recommandations.
Oui. OK, première recommandation, simplicité volontaire. On en fait trop. Quand on veut être en relation avec quelqu'un, puis il y a un petit malaise, tout ça, ce qui peut être tout ce qui dépasse. On peut-tu juste être dans la simplicité volontaire, dans une ligne directe, c'est ce qu'on disait tantôt. On parle trop, puis c'est souvent le bout qu'on rajoute qui nous met dans la marde. OK? L'autre élément, c'est la vérification. Peux-tu aller vérifier avant de te faire un... Écoute, puis là, je vous donne un exemple. J'ai une de mes amies de très longue date, mais qui est déménagée. Fait que, de vue, on se voit moins, là. Puis un bon jour, je me suis aperçue que j'étais plus son amie Facebook.
Oh!
Non, mais, OK, c'est elle m'aime plus, etc. Après vérification, son Facebook, là, il l'a, pour une mauvaise raison, il l'avait fermé pour 6 mois. Si j'avais pas vérifié,
ça me serait monté un scénario.
Je m'étais monté. Ouais. Et c'est là que les scénarios deviennent dangereux. Pouvez-vous aller vérifier?
C'est vrai.
Il y a tellement mille et une explications que tu as même pas. Ça, là, c'était même pas dans mes probabilités. Là, je ne savais pas. Puis là, j'aurais peut-être mis fin à quelque chose, pensant qu'elle ne m'aimait plus. Hey, les scénarios, peux-tu couper ça? Simplicité volontaire, ça veut dire ça, là. Puis les scénarios, on les propulse avec l'histoire des autres. Hey, t'as-tu vu une telle, elle a pu sur Facebook? Ben oui, moi aussi, c'est arrivé. Elle n'est plus la même depuis qu'elle est déménagée. Tu vois-tu dans ta tête, là? OK. Des messages clairs, on s'en est parlé. 3 mots quand on travaille en relation avec les humains. Ben, tous les humains, en fait, mais au travail, respect, empathie, politesse. Ces 3 mots-là devraient être toujours un guide. J'ai-tu été respectueux? Est-ce qu'on m'a manqué de respect? Est-ce que je suis capable d'être empathique? Ça veut dire, mets-toi donc à la place de l'autre un peu, là, tu vas peut-être, au lieu de le juger. Puis 3, sois poli. Ça veut dire, dans ta façon de t'exprimer, moi, je pense que tout se dit, mais la façon dont on le dit va faire que l'autre va écouter ou va se défendre. Parce que dis-toi que si c'est mal lancé, l'autre va se protéger ou va se défendre. Tu n'arriveras pas au bout de la communication.
Est-ce que c'est mieux de communiquer par écrit quand on a un conflit?
C'est une très bonne façon.
Parce que les choses qui ont été dites sont toujours écrites.
Oui.
Donc, si la personne essaie de sortir les choses de leur contexte, essaie d'inventer des choses que tu aurais pu dire, verbalement, c'est plus facile. Oui, oh, oui, si tu me dis ça, tu t'en souviens pas, mais tu me dis ça. Oui. Tandis que quand c'est écrit, c'est écrit.
Il y a beaucoup de bonnes raisons d'écrire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus se parler, là. Mais il y a beaucoup de bonnes raisons d'écrire. Un, ça te permet de te décharger.
Oui.
Tu t'écris le message 3 fois avant d'envoyer le bon.
Okay? Tu choisis les bons mots.
Tu choisis T'assumes. Les bons mots.
Ouais.
Tu te donnes du temps. 2, ça te permet de te décharger pour pouvoir lui parler, peut-être. Si tu as écrit, là, puis tu as vomi, ben, tu vas peut-être être capable d'y parler plus sereinement. L'autre élément, c'est que ça permet à l'autre qui reçoit le message d'aller jusqu'au bout du message. Parce que le problème, c'est qu'on se rend rarement au bout. Essayez d'écouter quelqu'un qui est en train de vous ouvrir son cœur, c'est dur de se faire ma gueule. Là.
Mm-hmm.
Tu vas avoir envie de rebondir, tu vas avoir dit « je l'ai déjà vécu », puis « ouais, mais en même temps que… » puis c'est dur de laisser aller l'autre jusqu'au bout. Dans la vraie vie, c'est très difficile. Fait que par écrit, ça te permet que l'autre aille jusqu'au bout de ton message.
Moi, je fais ça avec mon chum, c'est magique.
Par écrit?
Oui. Quand, mettons, là, on réalise qu'on a une espèce de petit conflit, aussi banal soit-il, là, où vraiment on ne s'entend pas, là, on va soit s'écrire une lettre qu'on va se laisser sur le comptoir, l'autre le lira quand il voudra, là, le lendemain matin, là, il l'amènera, puis il fera ce qu'il veut avec. Là.
Le truc.
Oui, c'est la meilleure façon de faire parce qu'effectivement, tu as tellement raison. Surtout quand tu es impliqué émotivement, tu te relances. Tu vas me dire une phrase sans même avoir terminé ton idée, je vais avoir envie de te relancer parce que on n'écoute pas, on réfléchit à ce qu'on va répondre.
Puis tu perçois mal ce que l'autre dit. Moi, des fois, là, je reçois un texto, puis je suis plus fatiguée. Puis des fois, je fais « c'est quoi ce mange-marde-là? Watch me bien. Moi, j'ai un très bon système de défense. C'est pas que j'en ai pas, j'en ai trop un. Ça fait que, tu sais, il faut que je me... » Bien, quand je leur lis 24, 48 heures plus tard, je dis « ben voyons donc, j'avais pas vu ce mot-là, puis il change tout. » C'est que on a comme une lecture sélective. C'est comme si on était là, pas là, là, pas là, là, pas là, parce que l'émotion prend toute la place. Puis, fait que l'écriture te permet aussi de dire « j'ai reçu le message, je ne répondrai pas tout de suite. »
Puis ça te permet aussi de conserver les preuves, parce que là, on parle entre collègues d'entreprise. Pour ce qui est des gestionnaires, parce qu'Audrey, il reste 2-3 minutes, Audrey.
OK, Audrey, je t'écoute.
Pour ce qui est des gestionnaires, tu sais, j'étais gestionnaire, moi, de service de télévision locale, de câble distribution et tout ça pendant quelques années. Puis c'est un métier que j'ai adoré, sauf que c'est un métier que j'ai dû apprendre sur le tas, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, bien, je jasais avec d'autres gestionnaires, je leur disais, hey, c'est quoi votre façon de faire pour régler des conflits et tout ça? Puis bien souvent, quand on avait, exemple, à mettre un employé dehors, pour telle raison. Exemple, pour vol. Ça m'est arrivé pour vol. Puis là, la personne, j'ai demandé à une personne tierce d'être avec moi dans le bureau
Très
pour
bon
assister
ça.
À la rencontre.
Ça, c'est bon.
pour... Tu sais, moi, j'avais des preuves à donner à l'individu. Mm. Tu nous as menti, tu as volé du temps. Voici les temps du système d'alarme qui ont été désactivés. Puis toi, ben, tu disais que tu étais dans la bâtisse alors que le système d'alarme était toujours activé, fait que ça fonctionne pas. Je t'avais averti quelques fois. On est rendu à la troisième fois. Là, maintenant, je dois mettre fin à ton emploi aujourd'hui. Est-ce que tu as des questions? Puis l'autre personne, elle disait rien. Elle assistait juste à ce qui se passait là. Fait que si la personne allait se plaindre, exemple, aux normes du travail... Ben, j'avais un témoin qui était
très
là.
Bon.
Il y a d'autres gestionnaires aussi qui enregistrent parce que tu as le droit d'enregistrer là, lorsque tu mets fin à l'emploi de quelqu'un. Fait que si la personne a tendance à t'en vouloir à toi personnellement puis vouloir inventer des trucs, ben toi, tu l'as le tape. Donc, quand tu vas arriver au nom du travail, tu as les preuves. Audrey.
C'était ça aussi, nous autres, quand je travaillais en gestion de centre de conditionnement physique, même affaire, on avait tout le temps des témoins.
Des chicanes de couple qui peuvent aller au divorce. Et on peut en donner plein d'exemples.
Par rapport au patron, en fait, c'était juste de dire c'est quoi la job du patron là-dedans? Parce qu'à un moment donné, c'est sûr que ça se sent là, quand il y a des tensions entre des collègues de travail. C'est sûr que ça se rend d'une façon ou d'une autre au patronat. Et tu fais quoi comme patron? Comment tu interviens dans ce temps-là?
Je dirais la même chose aux parents qui disent à quel moment je dois intervenir quand il y a une chicane entre les enfants. On pourrait faire un parallèle. À partir du moment où ça dépasse le respect, c'est-à-dire que tu es témoin de choses qui dépassent le respect. Quand tu es patron, tu as une responsabilité, c'est l'atmosphère. Et puis, tu sais, maintenant, il y a même des cours là, dans les entreprises où tu dois suivre pour ne pas déborder au niveau des demandes sexuelles, du respect d'un collègue. Les gros mots ne passent plus, tu vas avoir une marque à ton dossier. Donc, le gestionnaire doit être garant de ça. C'est-à-dire, à partir du moment où il ne respecte plus les valeurs de l'entreprise, à partir du moment où le manque de respect est visible, à partir du moment où ça vient entacher l'atmosphère, à partir du moment où ça ne suit plus les valeurs de l'entreprise, parce que l'entreprise a des valeurs, à partir du moment où ça... Bien, je pense que là, il y a une responsabilité de dire, bon, on va se parler de spit, là.
C'est difficile, hein, les humains. Colline de Bine.
Mais c'est passionnant, c'est merveilleux.
Ah, vraiment,
ben
ça,
non, mais ça serait-tu plate si on était toutes des plus que parfaits?
Ça, oui. Ça prend toutes sortes de monde, faire un monde.
C'est pas si pire quand on est comme ça.
Bien, moi, je pense... T'es-tu en train de dire quand ils sont comme moi?
Non, exact. il est en train de se donner un compliment.
C'est ça, c'est ça.
Je te sauve, là.
Non, mais c'est ça qu'il disait. Ouais,
Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain, éducatrice spécialisée pour que les gens puissent te rencontrer ou encore te voir en conférence. On fait quoi pour te suivre?
Paul Lévesque à commercial.yahoo.ca, paullevesque.net. Paul Lévesque, pas d'accent, sur Google, tu vas me retrouver.
Exact.
Le problème, c'est que souvent, les conférences, ils sont fermées. C'est-à-dire, j'en donne une ce soir, mais c'est pas tout le monde qui est invité.
On a une belle salle en bas, il y a 100 quelques places.
Ah, j'ai passé le message. Ne t'inquiète pas, j'ai passé le message.
Puis j'ai pas parlé contre votre patron au micro, fait que tu vois, peut-être qu'il va avoir envie de m'engager.
Mais la chance là-dedans, c'est que j'en ai pas encore parlé à notre patron direct. J'ai eu la jasette avec le propriétaire.
Oh!
Fait que d'après moi...
Puis, avais-tu envie? Ben,
pour Audrey, il n'est pas question de parler juste au patron.
Non, c'est pas vrai ce que tu dis.
Directement à Biscuiterie Leclerc, rencontrer M. Leclerc.
C'était circonstanciel.
Là, je vais l'apprendre comme agent, je pense, parce qu'elle est trop extraordinaire. C'est sûr que là moi, je vise le stand Vidéotron.
Oh!
Écoute, on va t'organiser ça.
On te le souhaite, du moins. 11h18, Paul Lévesque, spécialiste du comportement humain. C'est toujours un plaisir de te parler.
Plaisir partagé, je vous embrasse.
On revient, bye-bye. Dans le retour.